Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Écho.
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 L'écho des coulisses.
Nous sommes avec Stéphane Filion et Pierre Talaron. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va déjà commencer. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Eh bien, oui. Donc, je suis Pierre Talaron, effectivement. Je suis le metteur en scène pour la pièce Le Chant du Vertige, qui est présentée par la compagnie Lapsus, avec laquelle on est en résidence à la Grainerie depuis une semaine et jusqu'à samedi.
Et je suis donc Stéphane Filion, cofondateur de la compagnie Lapsus, qui existe depuis une douzaine d'années maintenant. Et je suis artiste au plateau, jongleur particulièrement.
Très bien. Vous êtes introduit. Quels sont vos parcours respectifs du coup jusqu'à aujourd'hui?
Moi, je viens du théâtre. J'ai fait une école de théâtre à Lyon dans le début des années 2000. Et j'ai commencé dans le parcours professionnel en tant qu'interprète dans le milieu du théâtre, et puis assez rapidement je me suis mis à la mise en scène et à faire de la mise en scène avec des gens qui venaient pas nécessairement du théâtre, ce qui m'a permis de rencontrer des gens de la danse, de la musique, du cirque, et puis voilà, à faire de la mise en scène avec tout plein d'interprètes qui viennent de tout plein de disciplines différentes.
Et j'en profite pour dire que c'est très exactement ce qui nous a séduit dans le profil de Pierre quand on cherchait un metteur en scène. C'était cette approche très, très multiple et diverse du rapport à la création artistique et de ne pas simplement solliciter un metteur en scène de cirque qui avait cette expérience-là. Et quant à moi, à la même période, au début des années 2000, j'ai été formé en école de cirque, d'abord en école préparatoire, ensuite en école professionnelle au Lido de Toulouse. Et ensuite, j'ai commencé assez rapidement avec la compagnie Lapsus à créer les spectacles qui sont au répertoire aujourd'hui.
Comment est-ce que ça vous est venu cette passion? Premièrement, pour vous, Pierre, le théâtre, puis ensuite d'avoir dirigé vers la mise en scène. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette voie-là?
Ben, une sorte d'atavisme familial. Mes parents faisaient déjà ça, donc je suis né dans ce milieu-là. Alors, la question du choix est un peu floue pour moi. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu le choix à un moment de ce parcours-là. Mais bon, voilà, donc je suis né dans ce milieu-là. J'ai grandi au milieu d'artistes qui créaient des spectacles. J'ai vu ça depuis tout petit. Et puis, assez vite, je me suis dit que j'avais envie de faire ça aussi. Donc voilà, j'ai commencé enfant dans des troupes amateurs. Et puis, dès ma majorité, avec une école professionnelle.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus égoïste dans l'envie de faire quelque chose d'un peu différent, quoi, de chercher une forme de singularité et au moment de l'adolescence, quand on se cherche un peu et qu'on a envie d'affirmer, d'exprimer des choses. Bon, voilà, j'avais pas envie de faire les mêmes sports que les copains et j'avais envie d'aller faire une activité dans laquelle il y avait un espace d'expression qui était un peu plus ouvert et un peu plus singulier, je crois. J'ai envie d'être original, quoi.
Vouloir se démarquer des autres.
Je crois qu'il y avait un peu de ça au départ. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais avec 25 années de recul sur le moment où j'ai commencé à faire du cirque. Mais oui, ensuite, qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie d'être professionnel par la suite? Là, pour le coup, c'est devenu une évidence. J'ai jamais eu la sensation de faire ce choix à un moment où, de fait, il y avait déjà une activité qui était en cours et c'est devenu quelque chose de très... qui s'est imposé, quoi, en quelque sorte.
Du coup, on a parlé chacun respectivement de vous deux. Est-ce que vous pourriez nous présenter du coup la compagnie Lapsus et également pourquoi ce nom-là?
Alors, pourquoi ce nom-là? C'est un pur hasard. Alors, je sais que c'est pas très sexy de le dire comme ça, mais malheureusement, on a fait un tour de tous les noms qui existaient. Et puis, c'est le seul sur lequel personne n'a dit non. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances, contrairement à ce que certains imaginent aujourd'hui, parce que... Enfin, c'est peut-être pas si un hasard que ça, mais il y a des liens qui sont faits entre le rapport au lapsus, au non-dit, aux choses que l'on imagine et aux choses que l'on voit dans nos autres spectacles précédents. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout une volonté consciente à l'époque. Et ensuite, la compagnie Lapsus défend des univers esthétiques qui sont assez fins, qui sont assez léchés. Ça fait partie d'une identité artistique qu'on revendique avec notamment des créations lumière et des créations musicales qui ont une place importante dans nos écritures et une pluridisciplinarité que l'on revendique aussi depuis toujours avec une dominante en portée acrobatique mais qui laisse toujours la place aux équilibres, à la jonglerie, au monocycle dans les pièces précédentes. Donc on a aussi cette volonté d'avoir un éclectisme dans les spécialités qui sont représentées au plateau. Voilà, pour à grands traits ce que propose la compagnie depuis quelques temps.
Alors du coup, comme vous venez de le dire, il y a pas mal de voix différentes dans le plateau. Est-ce que vous pourriez nous présenter les autres membres de l'équipe, du moins, qui composent principalement le groupe Lapsus?
Ah ben, ça dépend comment on considère. On est 7 au plateau. En revanche, là, sur cette seule résidence à la Grainerie, il y a 20 personnes qui ont travaillé sur ce projet, pour donner une idée. Donc, je ne vais pas citer tous ceux qui, de la costumière à l'accessoiriste, au metteur en scène, truc, constituent la compagnie, mais c'est un très grand collectif. Et ça aussi, c'est une notion qu'on défend depuis toujours, dans la mesure où on a une direction artistique qui est collégiale. Si bien que l'intégralité de nos spectacles sont signés par un collectif de co-auteurs et de co-autrices, avec à chaque fois une mise en scène qui, elle, est signée par Johan Escope dans un premier temps et maintenant Pierre Talaron. Donc on a toujours ce défi d'arriver à proposer des créations collectives qui sont mises en scène par quelqu'un. La compagnie a été créée à partir d'une rencontre qui s'est faite à l'école de cirque de Lyon au XXe siècle, à l'époque où on était tous, à l'époque où on était tous dans un cours amateur et on faisait des spectacles quand on avait entre 15 et 18 ans. Et puis on s'est tous séparés en école de cirque. Et il y a un moment où on a eu envie de se dire, le groupe qui a existé avec cette fraîcheur, avec cette complicité, on a l'intuition qu'on a envie de défendre des choses ensemble, collectivement, et qu'on a un langage qui est commun, qu'on a un univers qui est convergents les uns avec les autres. Et donc, on a eu envie de reconstituer ce groupe-là, mais cette fois avec des perspectives, des visées professionnelles. Donc, c'est une rencontre qui a commencé à l'école de cirque de Lyon et qui ensuite s'est un peu largement ouverte au gré des rencontres.
Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette nouvelle création, du coup, qui est un spectacle qui est arrivé en 2021, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous avez créé, quelles ont été les étapes de travail à aboutir sur ce spectacle?
On a d'abord constitué une équipe, une distribution, à partir d'une thématique que l'on avait posée avec les personnes qui étaient déjà dans les spectacles précédents. En l'occurrence, pour faire très simple, les enjeux environnementaux et comment, en tant que co-auteurs et co-autrices, on se positionne face à la crise climatique, environnementale qui s'offre à nous, et non pas qu'on n'a pas envie de subir, mais qu'on a envie d'accueillir aussi. Et donc, on est parti avec des textes au départ, puis des improvisations qui ont permis de faire émerger, de faire naître de la matière. Matière qui ensuite a été agencée pour essayer d'arriver à une écriture qui a été sublimée, je mets des guillemets, avec une mise en scène, avec tout un travail de gestion des intensités, des rythmes, enfin, peut-être que Pierre en parlera différemment. Donc c'est un processus qui est très empirique. On défend ça, l'idée qu'en cirque, on est sur des créations de plateau, des écritures de plateau, c'est-à-dire qu'à la différence du théâtre, on n'arrive pas avec une écriture préalable en disant voilà, toi tu fais ça, mais ce sont vraiment les improvisations qui permettent de faire émerger des matières, et à partir du sens global que l'on veut donner à ces matières, en fonction de ce que l'on vise, il y a derrière une réflexion à mener sur comment est-ce qu'on agence tout ça et comment on donne du sens à cet ensemble de pièces de puzzle un peu dispersées au départ.
Puis aussi, par rapport au sujet qu'on traite dans la pièce, il y a peut-être quelque chose qu'il faut signaler aussi, c'est qu'on travaille avec un auteur qui est Pierre Ducrozet, qui a écrit un roman qui est sorti il y a un an et demi, qui s'appelle Le Grand Vertige. Et ça, c'est un ami de Stéphane, notamment, et de la compagnie Lapsus, hein, je crois, depuis quelques années. Et il y avait un désir de travailler ensemble depuis plusieurs années. Et puis ce sujet-là, de se questionner sur l'époque, avec effectivement cette grande cette crise climatique, c'est un sujet qu'on partageait entre les différents artistes au plateau, et puis avec Pierre, auteur de ce livre qui s'appelle Le Grand Vertige. Et donc on a voulu aussi travailler ensemble, et sans faire une adaptation du roman, ça n'a jamais été le sujet, de faire une adaptation du roman, mais de partir dans une même veine artistique. Et comment est-ce que, autour de ce sujet-là, de société, d'époque, comment est-ce qu'on travaille ensemble et comment est-ce qu'on crée un mouvement poétique? Donc pour Pierre, par le travail littéraire, et puis pour nous, par le travail scénique. Donc on a travaillé avec Pierre, qui est venu nous voir régulièrement pour des discussions, pour de l'écriture, pour de la mise en commun aussi de réflexion. Et puis l'autre chose qui me semble intéressant d'ajouter par rapport à ce que disait Stéphane sur la démarche, la méthode empirique de travail, ça c'est assez intéressant selon moi, c'est-à-dire qu'on met des choses en travail et on cherche à accrocher ce qui fonctionne, ce qui nous semble juste, et de ne pas partir avec des idées trop préconçues en disant « c'est ça qu'on veut faire », mais de vraiment se laisser faire, en fait. Se laisser faire par ce qui est en train d'apparaître, d'attraper ça, et de poétiser, d'en faire un moment qui est beau. Et donc c'est une manière de travailler, mais c'est aussi une manière de se positionner. Et peut-être d'autant plus par rapport au sujet qu'on traite, là, de grands changements, de grands bouleversements, de grandes métamorphoses de ce rapport au vivant. Et, voilà, on défend aussi cette position de prendre ce qui est, d'arriver à avoir une espèce d'écoute la plus large possible de ce qui est et de se rendre disponible pour conjuguer avec ce qui nous apparaît, quoi.
Et à cet égard, pour compléter, c'était assez amusant pendant le processus de création de sans cesse se renvoyer à ce contexte dont on voulait parler, qui est le cœur de cette pièce-là, pour accepter nous aussi de manquer de certitude par moment, d'accepter de se laisser emporter à un endroit où on ne serait pas nécessairement allé au départ si on s'était tenu à une écriture qui avait été déjà très, très déterminée au départ. On aime cette idée qu'il faut composer avec tout ce qui arrive et que si on arrive avec trop de certitude, on risque de prendre une grosse claque dans la gueule, pour le dire un peu trivialement.
Ça a été difficile justement de faire cette transition-là ou...
Ben, ça a été vertigineux, avec ce que le vertige peut avoir à la fois d'inquiétant par moment et à la fois d'extrêmement stimulant dans d'autres situations où on peut voir aussi ce que ça ouvre d'une certaine manière de nouveaux possibles que l'on n'avait pas imaginé au départ et d'accepter l'idée que on va se laisser désaxer, comme on aime le dire par moment, pour faire le pas de côté qui nous permet de dire ok, bon bah on imagine un truc et c'est complètement autre chose qui va se passer. Et de cette manière-là, on a essayé de ne pas arrêter trop tôt l'écriture de ce spectacle-là et d'accepter de laisser la place encore à quelque chose que l'on n'avait pas anticipé et qu'on n'avait pas vu venir nécessairement.
Mais je pars du principe que le chant du vertige, ça s'appelle comme ça par rapport au livre.
Ben si, on peut faire un lien quand même avec le livre. Comme l'a dit Pierre, on ne voulait pas faire une adaptation de ce roman, mais voir comment, à partir d'une réflexion qui était partagée, on se l'appropriait de manière différente. Lui, en tant que romancier, et nous, en tant qu'auteur de spectacle vivant. Et c'est amusant de voir où est-ce que Pierre parfois dit « mais je suis capable de beaucoup en termes de stimulation de l'imaginaire dans mes romans, mais il y a un moment, les mots ne suffisent plus à évoquer certaines choses. » Et il a aimé l'idée de voir où est-ce que les corps pouvaient parfois prendre le relais de mettre les frontières à un autre endroit que celle auquel lui, il était habitué. Et après, pourquoi le chant du vertige? Parce qu'on avait envie, on faisait évidemment allusion au chant du cygne, qui est cette dernière expression du cygne avant la mort, donc. Mais c'est quelque chose qui est éminemment beau et mélodique et qui est aussi un signe de... le symbole de la vie, malgré tout, le chant, et puis le vertige de ce qui nous arrive tous et toutes et que l'on a envie d'accueillir et d'accompagner.
Comment vous voyez l'avenir de votre compagnie? Et genre, en général, comment vous voyez l'avenir de ce secteur-là? Est-ce que vous pensez que le cirque, le genre de cirque que vous faites, qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir plus tard?
J'ai envie de défendre l'idée que le cirque, à sa toute modeste échelle, sera capable de se saisir des enjeux sociétaux qui sont aujourd'hui les nôtres à une échelle beaucoup plus vaste, pour se remettre en cause assez profondément. Et moi, je sais que je crois assez fort à l'idée que les arts peuvent être aussi un moyen, parmi tant d'autres, de modifier les pratiques, mais de modifier aussi les imaginaires et de modifier les domaines de référence dans lesquels on a tous et toutes grandi et qui me semblent aujourd'hui caduques et qui a une nécessité à dépasser. Et la crise qu'on a traversée l'année dernière nous montre bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'il faut apprendre à composer avec inventer un modèle de production, de création, de diffusion de spectacles qui n'est pas le même que celui qu'on a toujours fait. Et j'espère que nous aurons aussi le courage de perdre nos habitudes, quoi. Et que si on essaye d'imaginer la suite du secteur culturel et ou de la compagnie Lapsus en fonction de ce qu'on a déjà connu depuis 10 ans, pour moi, on est sur un chemin qui n'est pas le plus sain, le plus porteur, le plus... Je sais pas.
Après, il faut toujours persévérer. Ça va marcher un jour ou l'autre, moi, je pense.
Mais... je pense que si on...
En fait, il faut juste que les gens réfléchissent un peu plus.
Oui,
c'est à eux de se poser des questions la plupart du temps, c'est pas...
Probablement, mais ce n'est sans doute pas en refaisant plusieurs fois une chose qui a déjà échoué que l'on arrivera à se sortir d'une situation compliquée.
Et comment vous pensez que votre spectacle en particulier, il peut impacter dans tout ce qui est...
C'est très compliqué d'arriver à mesurer ça, hein. On n'en sait rien. Nous, le travail qu'on mène, c'est déjà d'arriver à notre endroit de travail, de sentir qu'on est suffisamment honnête pour vraiment se remettre en cause, vraiment ne pas reprendre des manières de faire, des manières de travailler, sentir que nos repères sont mouvants et que chaque jour est un jour neuf, hein, comme on dit. Et puis après, si on arrive, on en parle souvent au plateau quand on travaille, que si vraiment on arrive à se mettre dans cette qualité de présence entre nous, au plateau, avec la pièce qu'on est en train de jouer, si vraiment on est dans une autre manière de se sentir vivant, finalement, peut-être, on s'offre la possibilité que ça se transmette avec ne serait-ce qu'une personne dans le public, bon, bah, ce sera déjà ça. C'est impossible à mesurer, et même, je trouverais ça, ce serait une nouvelle manière de se fourvoyer que de chercher à quantifier ça. Il faut accepter, je crois, de ne pas savoir.
Et pas avoir non plus d'objectif de résultat là-dessus. On n'a certainement pas envie de donner un supposé exemple de ce qu'il faudrait faire ou de donner des thèses sur les solutions qui pourraient sauver le monde demain. Ce n'est pas du tout le propos ni le projet de la compagnie, ni le propos de ce spectacle-là.
C'est prendre les choses comme elles viennent et de voir le résultat ensuite, une fois que c'est proposé au public.
Oui, c'est ça, c'est essayer de déplacer le regard, d'élargir les œillères, à la fois les nôtres en tant que créateur, créatrice, et à la fois celles du public, pour essayer de regarder, d'écouter les choses un peu différemment, dans l'espoir qu'il puisse y avoir, à un endroit ou à un autre, des choses qui bougent dans la manière de donner, dans la manière de recevoir, même si c'est pas du tout cette logique-là de don et de réception, hein, quand on donne un spectacle, mais de partage plutôt, dans cette manière de partager ensemble un temps commun sur un plateau de théâtre.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? C'est quoi qui a fait qu'à la place de faire des spectacles plus, on va dire, commerciaux, on peut utiliser ce mot, plus commercial, qu'est-ce que ça donne envie de vous engager, d'essayer de faire réfléchir les gens, dont vous-même vous creusez la tête?
Alors, moi, j'ai l'impression que la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que, conscient de tout ce qui dysfonctionne aujourd'hui, on a fait le choix de continuer le spectacle vivant? Parce que moi, je trouve qu'il y a déjà une forme de, pas d'anachronisme, mais d'incohérence à l'idée de continuer à faire du spectacle tel que malgré tout on est un peu habitué à le faire, quand on a cette conscience aiguë d'un vivant qui est en train de s'ébranler en quelque sorte autour de nous. Peut-être un peu, c'est la question précédente, enfin la réponse à cette question est la question précédente, c'est-à-dire avec l'espoir de pouvoir petitement toucher quelqu'un et quelqu'une dans le public, et de se dire qu'on essaye de faire les choses avec le plus d'honnêteté possible, d'une manière un peu moins conquérant.
Et puis il y a quelque chose aussi qui demeure dans le fait de faire du spectacle, c'est ce moment où finalement des êtres humains décident de se retrouver une nouvelle fois avec un objet à voir qui est sur scène, un objet qu'on appelle spectacle, et qu'il y a des gens qui vont venir pour le faire et qu'il y a d'autres gens qui vont venir pour le voir, et que c'est de nouveau un moment de retrouvailles, et que c'est vrai que ça peut paraître un peu dérisoire, mais mine de rien c'est quand même une fois de plus un moment de retrouvailles entre vivants humains. Et que là, il y a des choses qui se passent qu'on ne mesure pas. Mais il y a très probablement un sentiment, ou alors une sensation d'être ensemble. Et ça, moi, personnellement, ça me semble quelque chose d'important. De nourrir cette sensation qu'on est ensemble.
Mais c'est prendre un gros risque. Enfin, la carrière, c'est prendre quand même un risque. Ouais. Je veux dire, de partir dans le côté engagé, quitte à ne pas recevoir, avoir le public qu'on veut. Enfin... Par exemple, je suis très fan d'une rappeuse, Kenny Arcana.
Ouais. Moi aussi.
C'est une chanteuse très engagée. Ouais. Je trouve qu'elle n'a pas le public qu'elle mérite.
Ouais.
Pourtant, elle a pris le risque de rester sur sa lancée, quoi.
C'est parce que peut-être à ce moment-là, on est sur des enjeux qui dépassent les notions de carrière, me semble-t-il. Enfin, moi, savoir ce que la compagnie sera dans 10 ans m'importe moins que de savoir dans quel monde vivront mes enfants dans 10 ans, quoi, en quelque sorte. Et c'est en ça que j'essaye de plus trop raisonner sur, bon, bah, alors, quelles seront les conséquences et les machins. Et c'est plus en tant qu'être humain comment on se positionne aujourd'hui. Et puis pour compléter sur ce que disait Pierre tout à l'heure, avec aussi l'espoir que ces retrouvailles entre humains dans un même espace ben, nous permettent aussi d'avoir des retrouvailles avec le non-humain par ailleurs et d'apprendre aussi à se reconnecter un peu avec toutes ces forces du vivant qu'on essaye de convoquer un peu et d'incarner pendant ce spectacle-là.
Et pour vous, toucher les gens, ça vous fait quoi ? D'avoir un impact, on va dire. Si vous arrivez à avoir un impact sur une personne banale, ça vous ferait quoi ?
C'est le plaisir de l'échange et du partage, je crois, de la même manière que quand on se retrouve à une terrasse de café avec quelqu'un et qu'on a l'impression qu'il y a une connexion, des échanges qui s'établissent, voilà, c'est ce rapport-là, la complicité au point de convergence qui font qu'on se sent, partager quelque chose, mais il n'y aurait pas d'envie ou d'intentionnalité de faire changer le positionnement des gens, de leur faire prendre conscience de certains trucs. On fait une proposition artistique sur scène et puis ensuite les gens s'en emparent de la manière dont ils ont envie de s'en emparer en quelque sorte.
Merci beaucoup Stéphane Pierre. Une dernière question avant de clôturer l'interview. Quelles sont vos prochaines dates et où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour vous suivre sur les réseaux ou autres ?
Alors, la première du spectacle sera le 11 décembre à 7 et toutes les autres dates sont à retrouver sur notre site internet. Les réseaux sociaux, on oublie, on est très très mauvais là-dessus, mais sur le site, il y a un calendrier qui est à jour et qui permet de connaître toutes les dates de diffusion du spectacle pour la saison 21-22.
Votre site qui est du coup ?
Seyolapsus.com, je crois, mais c'est à vérifier.
Très bien. Merci beaucoup Stéphane et Pierre
d'avoir
attribué du temps.
Merci aussi.
Et puis, bonne tournée pour vous.
Et bien, merci. J'espère.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Écho.
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 Écho des coulisses.